Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti donc pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tuet, et notre invité aujourd'hui qui est...
Vincent Delerme.
Yes, ravi de t'avoir avec nous, Vincent.
Ravi aussi.
Un homme, un artiste multitalentueux avec beaucoup de cordes à ton arc, écrivain, photographe, musicien bien sûr. Ton premier album, pour rappeler à ceux qui te découvrent, peut-être, on ne sait jamais, avec ce podcast, c'est l'éponyme Vincent Delerme. Ça remporte la victoire de l'album Révélation de l'année aux Victoires de la musique en 2003 et tu n'as plus quitté la scène en quelque sorte depuis. Des albums, des tournées, des pièces de théâtre, les musiques de films, des photos. Et si tu étais joueur de foot, on dirait que tu peux jouer partout, Vincent.
Ah, c'est sympa.
Un quand polyvalence formidable.
Quand j'étais petit, je rêvais d'être Van Basten. Je me creusais les joues face à la glace. J'aspirais mes joues pour lui ressembler, tu vois.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Je le trouvais très beau et puis très élégant et tout ça.
Ah, mais c'est vrai que c'était la classe quand même. Et le foot là-dedans, alors?
Écoute, le foot, c'est assez marrant parce que je me souviens vraiment du moment où ça m'intéressait pas et du moment où ça a commencé à m'intéresser parce que moi, je suis né en 76. Et je me souviens que ce match, évidemment, dont tout le monde parle, notamment dans ton podcast, qui est France-Allemagne 82, mon père l'a regardé et moi, je suis allé me balader avec ma mère ce soir-là dans la forêt. Il y avait des vers luisants. Donc, je sais vraiment que je m'en foutais, quoi, à ce moment-là. Et 2 ans après, j'étais à fond. Donc, c'est vraiment la bascule. Tu sais, quand t'as 6, 7, 8 ans, il y a un truc d'un seul coup qui s'est déclenché pour moi, mais c'était très net, ouais.
D'accord, à 6 ans, donc tu étais encore jeune, tu étais dans les bois.
Je me souviens vraiment, on était dans les Landes, et par contre, j'ai senti le drame. Il y avait l'odeur du sang, parce qu'en plus, c'était une époque où il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient en vacances en France, dans les Landes, et mon père a regardé le match au milieu d'un groupe d'Allemands, et je l'ai vu revenir très défait, mais sans trop comprendre pourquoi. Tu vois, je me disais, tiens, c'est marrant, et après, j'ai compris.
J'étais pendant la lune de miel en 96. En République dominicaine, il y a Allemagne-Angleterre. Ouais. Donc forcément, ce n'est pas le moment idéal pour aller regarder un match de foot pendant la lune de miel. Mais bon, quand même, j'ai eu le droit. Et donc au dernier moment, parce qu'il y avait une salle pour ça, avec un grand écran, tout était tamisé, donc on ne voyait pas très bien. J'arrive en plus de la plage. Donc comme ça, petit, je trouve une place, je m'assois. L'Angleterre, il me semble, marque en premier. Et je saute de ma chaise en criant. J'étais le seul Anglais de la salle. Wow. Il y avait 500 Allemands autour de moi.
Ah,
bon, c'était peut-être bien que l'Allemagne gagne. Bon, allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Vincent Delerme, parce que ce n'est pas à moi de raconter mes histoires.
Match numéro 1, Vincent. C'est bien aussi.
Match numéro 1, Vincent, quel est ton choix et pourquoi? Et
bien justement, c'est le premier match, le match pour moi un peu de la bascule, qui est la demi-finale de l'Euro 84. Donc 2 ans après cette balade en forêt. et en fait, c'est un moment qui est très fort aussi. Je me souviens qu'on ne voit pas... Mes parents n'avaient pas la télé quand j'étais petit. Et ils la louaient de temps en temps pour un gros événement. Et donc, ils la louaient 1 mois, 3 semaines. Quand il n'y avait pas de gros événements, ils la louaient quand même pour que je sois au courant. Ils me disaient, comme ça, tu n'as pas l'air con dans la cour de récré. Tu connais les dessins animés. Dont tout est con. Et donc, pendant 3 semaines, c'était télé à flux tendu. J'ai le droit de tout regarder. Et là, ils l'avaient loué pour l'Euro. Et c'était... Et c'est un souvenir très fort. Déjà, esthétiquement, il y a un truc dans le grain des images de cette époque-là. L'image bave un peu. Et puis, c'est une équipe de France qui est assez magique dans sa manière de jouer. C'est aussi cet Euro, la première fois que la France va gagner, un peu sous l'impulsion de Platini, qui a décidé d'aller jouer à l'étranger, justement... un peu en mode si on reste en France, jamais on va y arriver, quoi. Et un truc un peu à sang froid. Puis c'est un match qui est assez étonnant parce que c'est l'homme du match, c'est Jean-François Domergue, qui notamment ouvre la marque sur un coup franc qui est franchement a priori complètement fait pour Platini. C'est vraiment c'est le truc normalement que tu fais jamais, quoi. En plus, Domergue, c'est beau parce qu'il devait pas jouer comme titulaire cet Euro. Il le fait parce que je crois qu'Amoro se met un coup de boule à un joueur danois.
Oui.
Et donc, et là, il se retrouve à mettre un doublé. Et puis, c'est au Vélodrome. Il y a un son qui est incroyable. Mais c'est une autre époque aussi, dans le sens que, par exemple, sur le dernier but du match, la façon dont c'est filmé, il y a plein de gens qui passent devant la caméra qui filment. On voit que le cadreur, il a hyper complètement les pédales. Ça n'arriverait plus du tout aujourd'hui. Mais c'est très fort. Il y a une sorte de mouvement qui déjà m'avait fait beaucoup d'effet en regardant le match. Et moi, j'étais dans un petit village, mes parents habitaient dans un village dans l'Eure de 3000 habitants, Et on a commencé à entendre des klaxons. C'est la première fois aussi qu'il y avait ce truc-là dans la rue. Et mes parents me disent « Ah, mais en fait, c'est ce soir qu'il y avait le feu de la Saint-Jean. Mais tu veux qu'on y aille ?» Et donc, ils me proposent de, tu vois, de foutre un manteau par-dessus mon pyjama et de partir dans les rues vers les terrains de foot. Parce que de Beaumont, de village, c'était là qu'il y avait le feu de la Saint-Jean. Et donc, tu vois, pour moi, c'est une sorte d'association mentale. Alors, quand tu gagnes au foot, ça ressemble à ça. Il y a cette émotion-là, ce bruit dans le stade, ce bruit dans la rue. Il y a un feu derrière de la Saint-Jean. Oui. Donc, c'est un souvenir assez parfait. Ouais.
C'est formidable comme image, effectivement. Et ce 23 juin 1984, effectivement, France-Portugal au Vélodrome. Le 23 juin, c'est aussi l'anniversaire de Domergue.
Ah oui, c'est ça. Marque 27 ans, je crois.
Le jour de son anniversaire. Un doublé 14 ans avant Lilian Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde.
Oui. Et je crois qu'il y a une histoire, je ne sais pas, peut-être que son père était mort peu avant ou un rapport fort à son père, parce qu'il racontait souvent que sur son premier but, Bernard Lacombe était venu le voir, lui avait dit « pense à ton père » et tout, et que du coup, ça lui avait mis un truc encore plus fort. Mais ce qui est assez beau pour un mec comme ça, c'est que ça arrive, hein, ça régulièrement, qu'il y a des histoires d'un joueur qui s'impose sur un match. Et lui, il le sait, il dit « ça, c'est mon match » et c'est génial.
C'est extra, effectivement, qu'il ait osé tirer ce coup franc alors qu'il y a Platini sur la pelouse et un Platini qui était en pleine forme, qui était le leader. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à Platini et qui jouait à la Juve à ce moment-là, à Juventus, parce que en regardant ses coéquipiers ce match, j'ai constaté Didier Six qui jouait à Mulhouse, Domergue à Toulouse.
Ah ouais.
C'est pas du tout comme lorsqu'on regarde l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 2018. Les deux tiers, ils sont à l'étranger dans des grands clubs. C'est pas du tout, on n'est pas encore là en fait.
Déjà, c'est une époque où il n'y a que deux étrangers par club, tu vois, et l'équipe du Portugal, Bento, Jordão, Chalana, ils jouent tous soit Benfica, soit au Sporting. Ouais. Et c'est sûr, c'était l'exception. Nous, on avait deux Anglais en France, c'était Marc Attley, Glenn O'Dell à Monaco. il y avait souvent d'ailleurs des sujets sur les deux étrangers qu'il y avait dans un club. Moi, j'étais abonné à 11, le journal 11. Oui. Et souvent, ils aimaient bien faire la couve sur les frères Vujovic à Bordeaux ou tu vois les Anglais de Monaco. Enfin, c'était toujours il y avait un storytelling qui était mais ça changeait beaucoup les choses, c'est sûr, ce truc là et donc du coup ceux qui partaient de France pour aller fallait vraiment surtout qu'en plus en l'occurrence Platini quitte Saint-Etienne donc c'était un peu quand même le truc qui se fait pas a priori, tu vois.
Oui. Mais tu es très jeune à ce moment-là, à peine 8 ans, ou tu vas vers tes 8 ans, je pense, le jour de ce match-là. Donc tu sais pas, peut-être vraiment à cet âge-là, que c'est rare que la France se qualifie pour une finale aussi.
Oui, c'est vrai. Peut-être que quand même, c'était un truc dont on parlait. Et puis, et puis après, même s'il y a eu cette victoire-là, après, ça a été long derrière à nouveau. Parce que même en Coupe d'Europe, tu vois, justement, comme mes parents n'avaient pas été, souvent on allait voir les matchs chez notre voisin. C'était plutôt l'épopée des Girondins de Bordeaux qui avaient perdu, qui avaient été jusqu'en demi-finale, je crois, battu par Leipzig au pénalty 2-3 ans après. Peut-être même en 88-89. Mais on n'allait jamais quand même. Puis après, Coupe du Monde 86, on perd à nouveau en demi-finale. Enfin, ça a été un peu un événement isolé, cette victoire 84.
Donc tu es là en pyjama pour le Fête Saint-Jean, pour fêter ça comme il le faut. Tu es né le 31 août 76 à Évreux. Tu es donc normand.
Ouais, je suis de la même ville que Dembélé. C'est un hébreu ici, hein, Dembélé.
Effectivement, je suis capable de dribbler comme lui un petit peu.
Je suis aussi imprévisible, mais avec moins de réussite.
et raconte-moi un petit peu ton enfance. Alors, tu as 8 ans le jour de cette demi-finale, mais il y a qui à la maison avec toi ?
Ah, il y avait vraiment que mes parents. Et d'ailleurs, d'une façon générale, je sais que moi, ça me plaît des fois de voir des matchs dans des bars avec plein de monde. Et puis, alors, pour le coup, maintenant, j'ai mon fils aîné. Et dès qu'il y a des gros matchs, il ramène plein de potes et tout. Et j'aime bien. Mais j'adore voir aussi des matchs tout seul ou à pas nombreux. C'est pas la même concentration. C'est pas aussi la même relation au commentateur. Parce que quand tu regardes un match, évidemment, que tu es tout seul ou à 2-3, tu écoutes beaucoup plus ce qui se dit. Et finalement, tu ne perçois pas le match de la même manière. On est quand même très orienté par ça. Moi, j'aime bien regarder tu vois, sur l'équipe 21, la mi-temps. À la mi-temps d'un match, leur débrief, il est toujours intéressant parce que ça t'éclaire quand même différemment de ce qu'ont fait les commentateurs. Ça, c'est vraiment fou à quel point quand même ça compte, quoi, et qu'il y a des gens aussi qui sont bons à ça, tout simplement, pour décrypter les choses, et voilà. Donc là, c'était petit comité.
D'accord. Et tu es sportif, petit, comme ça, tu joues au foot ?
Non, j'ai jamais joué en club. On jouait dans la cour avec une balle de tennis, tu vois. Donc, les chaussures étaient très vite en très mauvais état. Et en plus, cette cour penchait. Donc, l'enjeu, c'était d'arriver à être du bon côté. Mais par contre, c'est drôle parce que je me souviens que j'y mettais beaucoup de... Enfin, ça comptait beaucoup pour moi. Et je me retrouve dans un truc que j'avais à l'époque comme idée, que mon plus jeune fils, maintenant en foot, il me dit des fois, lui, mon plus jeune, il a 13 ans, et il me dit, franchement, là, t'as vu tous les replis défensifs que je fais, j'ai l'impression qu'il n'y a que mon coach, monsieur Hamel, qui les voit et tout, et il est content quand je viens le voir, parce qu'il me dit, je suis content que vous êtes deux à le voir, que je fais l'effort et tout. Et j'avais ce truc-là. Quand j'étais petit, je me disais, bon, mon institutrice qui surveillait la récré, je me disais, elle doit le voir, que je fais des passes, que j'essaye pas tout le temps de marquer, que j'essaye de construire le jeu. Mais c'est sûr que quand, après, ça bascule vers 15-16 ans, on se met à apprécier un peu plus le collectif, l'idée de la passe et tout ça. Mais dans la petite enfance, c'est quand même toujours le buteur. Et encore, ça peut des fois même poursuivre certains adultes, hein, cette idée-là.
Oui, oui, mais carrément. Mais... Et puis, le petit, effectivement, quand tu regardes les matchs dans le cours, ils sont toujours agglutinés autour du ballon, en fait.
Oui.
C'est comme une volée qui se déplace.
Il y a ça aussi, t'as raison.
Donc, quelqu'un qui prend un peu de place pour dire « je suis ici parce que comprends un petit peu la notion de l'espace ».
J'étais pongiste, moi. Rare. Je faisais du ping-pong.
Ah oui,
c'était ça, mon sport.
C'était ton sport préféré?
Ouais. Bah, c'était le sport que je faisais en club. Ouais.
D'accord. Ouais. Parce que donc ça veut dire que tu étais plus fort à ce sport-là, parce que normalement.
Oui, en fait, ça me venait pas l'idée. C'est marrant d'aller au club de foot. Après, par la suite, j'ai été voir des matchs avec mon père de l'équipe de Beaumont, tu vois. Mais je sais pas. Ouais, c'était. Tu sais, des fois, c'est des hasards d'enfance, de gens que tu connais, de potes à toi qui vont là, ou un mec qui dit ah bah moi je fais du ping-pong le vendredi soir, ça a l'air super, hop t'y vas, et puis c'est ça que tu fais. Enfin, des fois il n'y a pas toujours une sorte de, il y a plein de petits hasards.
Ouais, pareil, j'étais dans une équipe de ping-pong à en jouer contre.
Ah bon?
Ouais, parce que mon prof préféré à l'école, c'était son truc à lui.
Tu vois, voilà,
donc il organisait des cours après l'école. Ok, moi je faisais tous les sports aussi. Donc je me retrouve à jouer au ping-pong avec un de mes meilleurs amis qui était le plus fort de l'école.
Ouais.
Et donc je le suivais partout et on faisait des matchs, mais contre des adultes, on avait 12-13 ans.
Ouais.
Et on se déplaçait de village à village pendant ce petit championnat, se retrouver contre des gens vieux.
Oui. Mais en ping-pong, c'est ça qu'il faut faire, parce que pour être classé, il faut faire ce qu'on appelle des perfs et battre des gens classés. Et si tu rencontres que des mecs qui sont jeunes, ils sont en train de devenir classés, ils sont durs à battre, alors que ceux qui ont été très bien classés, qui sont un peu vieux, ils sont en train de baisser, mais tu peux faire des perfs quand même. Donc c'était ça le truc, toutes les fois, les classements qu'on obtenait jeunes, c'était souvent en jouant en équipe et en battant des...
Tu joues encore ?
Je joue, dans l'été, quand il y a une table, quoi.
Ok, on va organiser un petit match après.
Très bien.
Donc tu dis qu'à la maison, c'était pas trop une maison de sport, alors papa...
Si, parce que mon père était entraîneur d'athlé, ça comptait beaucoup pour lui, tu vois, et en plus, il y avait un club d'athlétisme juste à côté de chez nous, où il y avait des frères, ça tu peux pas connaître parce que c'est vraiment très français, mais les frères Barré, c'était des sprinteurs français qui ont été médaillés à Moscou en relais 4x100. Ils ont été médaillés de bronze et ils ont eu longtemps le record de France du 200 mètres en salle ou des trucs comme ça, tu vois.
Et ton papa était entraîneur?
Mon père, oui, était entraîneur. Il était très très, il a couru beaucoup le 400 mètres quand il était jeune. En espérant beaucoup et en atteignant un bon niveau, mais pas un niveau foufou non plus. Mais oui, ça comptait beaucoup et il s'est beaucoup construit avec cette mythologie-là. Il a écrit pas mal de textes sur le sport et tout ça. Oui, mon père, il est très, très, très sport.
Ok, d'accord. Et maman ?
Alors non, ma mère non, mais elle a toujours été très tolérante avec ça. Et puis elle sait que ça compte. Et tu vois, il y a une fois où la plus grosse émotion que j'ai eue pour mon père... en me mettant à sa place, c'est la fois où l'équipe a titré avant un France-Allemagne la première gorgée de bière, qui était le titre d'un bouquin qu'il avait écrit, et là que son titre devienne la une de l'équipe et tout, j'en pleurais, tu vois.
Ah oui, ça c'est formidable.
Ouais, ça c'est trop bien. Mais quand j'étais petit, mon père appelait des fois l'équipe pour proposer des titres.
Ah oui.
Ouais. Je me souviens fois, on était en vacances, et puis c'était Pantani Marco Pantani avait gagné une étape, et puis mon père avait appelé pour dire l'étape, oui, mais c'est Pantani. C'est une publicité française pour des pâtes que tu connais peut-être pas, qui étaient les pâtes Panzani. Il y a une fois, il y avait un faille qui jouait dans une équipe. Bon, bref, en tout cas, il proposait et il était toujours étonné parce qu'à chaque fois, il était quand même assez pris au sérieux. Et les gens, il n'appelait pas du tout en tant que mec et écrivain et tout. Hein, mais il tombait au standard sur quelqu'un qui disait « je note bien ». Évidemment, ça n'aboutissait jamais, mais voilà.
C'est génial, ça.
Ouais, c'est drôle.
Ouais, je peux l'imaginer.
Je vois très, je le vois très bien dans la cabine téléphonique en disant, bon, écoute, je leur ai proposé.
C'est génial. Il y avait, il me semble, dans ton village, il y a ce prof de sport, le Christian T, c'est ça?
Oh.
Et son frère qui jouait pour Toulouse.
Eh ouais, Benoît T.
Ouais.
Et en fait, et avec un gros fait d'armes, hein, pour le coup, ça fait partie des matchs que j'ai vus ouais. chez notre voisin, qui est un Toulouse-Naples, où Toulouse avait éliminé le Naples de Maradona, et Benoît T était au marquage sur Maradona.
86, il avait juste après que Maradona gagne ouais. la Coupe du Monde en plus.
Après, c'est une époque où ces joueurs-là, des fois... Ils pouvaient être parfois transparents. Ça arrive moins maintenant quand même. Bon, ça arrive hein, qu'un très grand joueur passe à travers un match, mais il y avait des fois, tu avais l'impression qu'il se mettait un peu en mode en off. Et là, sur ce match-là, en tout cas, mais c'était aussi le talent de Benoît de l'avoir contenu, tu vois. Mais pour nous, c'était un événement énorme, quoi. Le frère de Christian qui était au marquage sur Maradona, tu te rends compte.
Et Toulouse qui sort le nap de Maradona.
C'est une belle équipe. Ils avaient des Brésiliens aussi. Non, des Argentins.
Oui.
Marcico.
Oui, il y avait un défenseur argentin, effectivement, aussi. Dans cette... Jacques Santini était l'entraîneur.
Jacques Santini, absolument, qui entraînait.
T'as
et
souvenir.
Qui était dans les buts, je ne sais plus.
86. Bergerot, peut-être.
Ah, Bergerot, Philippe Bergerot, bravo.
Tiens, je ne sais pas comment ça m'est revenu. Match numéro 2, Vincent, parce qu'il faut avancer
on
quand même.
On a oublié de dire quand même que yes. 84 aussi, le charme de ce jeu, quoi. Le carré magique, tout.
Oui.
Fernandez, évidemment, Giresse, Tigana, Platini, c'est mythique quand même pour nous.
Et puis, non, mais tu as raison de revenir sur ce match un instant, parce que j'ai revu ce match plusieurs fois à travers mes préparations pour les tournois. C'était un match extraordinaire.
Oui.
Non-stop, ça allait d'un bout à l'autre,
ouais.
Et ça joue à un niveau.
Ouais, parce que les Portugais étaient très forts aussi. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, quand même, les Portugais égalisent très peu de temps avant, enfin, genre peut-être à la 75e minute. Et après, il marque au début de la prolongation. Donc là, c'est le cauchemar de Séville qui on va encore pas passer les demi-finales. Donc c'est la première fois que ce petit coup de rein. Allez, si on peut le faire quand même. Et donc ça, c'est fort.
Ouais. Et Platini qui marque 119e minute, le but de la victoire.
Ouais. Et, le 8e, il en a dû en mettre 9 avec celui de la finale.
Ouais, toujours un record pour un tournoi, pour un Euro. 9 buts en 5 matchs pour Platini.
Oui, c'est ça.
Et ouais, je suis tombé amoureux de.
Sans tirer les coups francs.
De cette équipe-là, effectivement, ouais, bien sûr. Quel homme. Match numéro 2, donc, Vincent. Nous sommes le 20 mars 1991 et nous sommes de nouveau au stade Vélodrome, décidément. Cette fois-ci, c'est la Coupe d'Europe des champions, la C1, pour un quart de finale retour entre Marseillais et AC Milan. Double tenant du titre par mois. Le club français avait fait un partout au San Siro. Papin avait marqué Rulit pour les Italiens. Alors, quels sont tes souvenirs de cette rencontre et pourquoi tu l'as choisi?
En fait, il y a deux gros souvenirs marquants. Déjà, c'est un peu, je t'ai mis, c'est particulier hein, de choisir ces matchs et tout. Après, tu choisis souvent aussi une époque de ta vie. Et là, c'est... D'ailleurs, mes fils m'ont dit, putain, t'as mis aucun match de Paris et tu te trouves loin de mettre un match de Marseille. C'est n'importe quoi. mais là, c'était quand même très fort, même si moi, j'ai beaucoup
désolé
à redire sur le système, les années tapis, même le côté dont se réclamait tapis, de dire j'ai tout appris avec Claude Baize. C'est-à-dire, bon, il faut quand même un tout petit peu intriguer entre les lignes et voilà, être parfois un peu border. Mais par contre, c'est sûr que c'était... une équipe qui avait une attaque qui était assez épatante parce que Pelé il avait vraiment un truc et le but de ce match-là et c'est un but incroyable de Waddell qui est voilà un centre d'Abedi Pelé relayé par Papin de la tête et Waddell la reprend. C'est marrant parce que j'ai essayé de la revoir mais moi je l'avais vu commenté par Larqué et j'avais vu sur la première chaîne et en fait tout ce que j'ai revu c'était toujours commenté par Bietri. Souvent c'est d'ailleurs le cas beaucoup des matchs que tu retrouves aujourd'hui en vidéo c'est la version Canal Plus qui est mise en ligne mais Larqué il dit très tôt dès que Papin fait la tête, il dit « La volée Mais oui, la volée !» Et c'est génial parce qu'il voit le truc. Et cette volée, elle est folle. En plus, c'est vraiment le moment où Waddell venait de couper sa coupe mulet. Il avait une nouvelle coiffure qui était... Et puis, franchement, Waddell, c'est un plaisir, quoi, ces joueurs-là. À la fois la fantaisie, le charme, le truc imprévisible. Et il fait une autre action, d'ailleurs, dans ce match. À la toute fin du match, il fait un raid tout seul où il s'écroule... dans la surface de réparation sans qu'il y ait faute, hein, juste parce que il en a slalomé 5 mais pas le 6e. Mais si, c'était un joueur assez fou. Ouais. Et après, déjà, oui, on était un peu Là, il y avait aussi ce truc de... Pareil, souvent, quand même, en Coupe d'Europe, on s'arrêtait. On avait perdu contre le Benfica avec la main de Vata. Après, je dis « on ». Je ne sais plus qui parlait de ça dans ton podcast. Disait, il y a une époque où toute la France était derrière Saint-Etienne, quand Saint-Etienne jouait. Là, même s'il y a déjà cette petite guéguerre Paris... Marseille, parce qu'elle est organisée un peu par Denisot et par Tapie, il y a quand même ce truc où, franchement, moi je me souviens qu'on était tous pour Marseille.
Enfin, oui, c'est Christophe Pélissier qui disait ça, l'entraîneur serre. Voilà. Effectivement. Ouais. C'était un événement quand un club français allait loin dans une Coupe d'Europe. Et donc, tout le monde était derrière.
Oui.
Quoi.
Et là, et du coup, c'était fou quand même. C'était une équipe tellement, qui semblait tellement impossible à battre. Elle est incroyable, cette équipe de Milan. Et donc, à la toute fin du match, il y a un projecteur qui lâche. Et le Milan AC, finalement, il y a un petit flottement. Et le Milan AC se dit, un peu sous l'impulsion de Gullit, qui a un coup à jouer en quittant le terrain et peut-être en faisant invalider le match parce que le projecteur ne marche pas.
C'est ça.
Mais ça dure des plombes. Je l'ai revu là avant de faire ton émission.
Oui.
Et j'en avais un souvenir parce qu'à l'époque j'avais enregistré le match sur VHS, donc je le regardais souvent. Et ce truc-là, ça dure. Puis au bout d'un moment, l'arbitre prend le ballon, le met au 6 mètres. Mmh. Il demande aux Milanais s'ils veulent revenir taper dedans. Et personne ne revient. Et donc le match est sifflé.
Oui.
Et donc, oui, j'ai appris ça, que l'année d'après, le Milan AC avait été interdit de compétition européenne.
Ouais.
Ce qui est quand même pas rien. Pour le Milan de cette époque-là.
C'est énorme qu'ils ont refusé de revenir sur la pelouse parce qu'effectivement, ils ont pu réparer les lumières qui ne marchaient plus, mais ce n'était pas à 100%. Mais monsieur l'arbitre avait décidé que c'était suffisant pour jouer le match. Il restait que 3 minutes.
Ouais, il restait très peu.
Mais effectivement, ils ont essayé de jouer le coup de genre.
Bah oui.
On va devoir rejouer le match, hein, les gars.
Mais je sais en plus, ils ont essayé de quitter le terrain, mais les gens de Marseille avaient refermé la porte du vestiaire, donc ils n'arrivaient pas à rentrer. Ouais, c'est vraiment.
C'était le beans, total. Mais incroyable. Quand on revoit ces images-là, on se dit, mais c'est pas possible qu'on a vécu ça à une soirée de Ligue des Champions. Et pour revenir sur Chris Waddle.
Ah, c'est drôle, je pensais que tu allais revenir. Bah oui,
il a marqué pied droit. Alors que le pied droit ne servait strictement à rien dans son jeu.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Alors, en plus, ça volait, elle passe vraiment. Vraiment, il n'y a pas trois endroits possibles pour qu'elle rentre. Et c'est marrant, ces joueurs comme ça. Mais ça, c'est un truc qui est bien, bien british aussi. Hein, même Gascoigne aussi. C'est des mecs qui ont quand même une fantaisie en eux, un truc, presque un truc d'humour aussi. Tu vois, quand Ginola avait signé là, qu'il avait mis sa perruque, tu te souviens de ça?
Oui,
de Gascoigne à l'entraînement.
Oui.
Ouais, c'est typiquement le genre de truc que Waddle aurait pu faire. C'est génial. Il y a presque à côté Ben Hill, quoi. D'ailleurs, c'était un truc qu'il faisait. Waddle, il faisait le geste de Ben Hill.
Oui, quelle culture, ce Chris Waddle. mais Chris Waddle aussi, j'ai un souvenir. Tiens, tu vas aimer ça. Des années après sa retraite. Match de gala organisé au Vélodrome d'ailleurs. C'était genre l'équipe de Ronaldo contre l'équipe de Zidane pour UNICEF, quelque chose comme ça.
Okay.
J'ai la chance avec Canal d'être bord terrain. Et souvent, ce qui se passe sur le terrain que ça se passe, c'est au bord de la pelouse. Il y a beaucoup de personnalités. On rigole avec Jamel Debbouze qui était là, qui faisait le clown, qui était, c'était là. Et à un moment donné, je voulais vraiment attraper Chris Waddle parce que je sais à quel point il a marqué le football français et un public qui a vraiment trouvé en lui un petit chouchou, quoi. Et donc, je le suis parce que j'arrive pas à l'attraper avec mon micro. Il est sorti et avec Laurent Blanc, tous les deux, alors que le match continuait, ils allaient ils allaient dans les vestiaires, quoi.
Ah ouais.
Donc, je dis à mon caméraman, viens avec moi. Et je suis tombé sur une scène parce que j'ai dû attendre 2 minutes avant d'avoir la permission d'aller dans les vestiaires. Je tombe sur une scène, ça disait tellement sur le football français et le football anglais de cette époque. Laurent Blanc, après avoir joué, je ne sais pas moi, 30-40 minutes, est en train de se faire masser.
Ah oui.
Okay, tu vois, sérieux. Chris Waddle a une pinte de bière à chaque main. tu vois, ça en dit tellement sur la différence d'attitude.
C'est
vrai. Tu
vois. Après, Laurent Blanc, dans Les Yeux dans les Bleus, il fume sa clope dans sa chambre aussi. C'est marrant. C'est des trucs qui ont pas mal bougé.
Il y en a un qui est champion du monde et l'autre.
Ouais. Non. Mais après, c'était Papin aussi. Il y avait un truc qui est touchant chez ce gars parce que souvent, les gens se foutent un peu de sa gueule à l'époque, tu vois, dans les marionnettes de Canal et tout ça. Et je trouve que c'est par rapport à ce qu'il a été fort et tout, c'est un mec qui est toujours resté très, très simple, très sympa. J'aimais bien le truc aussi, son brassard de capitaine qui était le foulard de sa femme. Tu vois, il y avait une petite. Il n'en a pas rajouté, je trouve. Tu vois, et c'est vraiment quand même un sacré joueur.
Ah oui, Ballon d'Or, ouais. Dans cette année 91 dont on est en train de parler. Et cette équipe marseillaise qui était peut-être plus belle encore que celle qui est championne d'Europe 2 ans plus tard. On est oui. au niveau du jeu.
Oui, et puis c'est des trucs de moment, tu vois, quand Bolly fait signe, il n'y a pas les larmes cette fois-ci et tout, mais même cette image-là, je trouve qu'elle est un peu, tu vois, parce qu'il avait pleuré 2 ans plus tôt, mais, mm-hmm. mais finalement, enfin, en tout cas, moi j'étais un peu déjà passé à autre chose, enfin, je n'ai pas pourtant le culte de la défaite et tout, mais des fois, c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont perdu, qui avaient vraiment un truc aussi, ouais.
Tu avais 14 ans à ce moment-là, tu es au lycée. T'en es où dans ta jeune vie d'adolescent à 14 ans?
Écoute, j'ai toujours, ça c'est peut-être aussi sous l'impulsion de mon père aussi, pas de difficulté à mêler le fait d'aimer beaucoup le sport et des trucs que t'es pas censé aimer si t'aimes le sport. Enfin, ça se passe plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est un mec qui apprend le piano, des chansons de William Scheller, qui lit que des bouquins, qui est en classe littéraire, a priori il est pas censé aimer le sport. En tout cas, il y a ça dans l'inconscient de la culture française. Et même quand j'ai commencé comme chanteur, les fois où j'étais pris en, je sais pas, où je venais, où j'avais l'équipe dans ma poche. Ah bon, vous lisez l'équipe, c'est bizarre, je pensais que vous étiez plutôt littéraire. Tu vois, il y a ouais. un peu ce truc.
Non, mais j'ai constaté ça en arrivant en France. Ouais. Il y avait ça.
Il y a pas ça chez vous.
Ouais, vraiment. Beaucoup moins.
Moins. Ouais. Bah, c'est vrai que tu vois, par exemple, quand on voit sur des sujets sur le Brésil, on voit souvent même des grands poètes brésiliens qui ont écrit sur le football et qu'il y a beaucoup plus. Bon, maintenant, ça a un peu changé, ceci dit, depuis quelques temps, notamment à cause de toute la culture SoFoot. Et ces magazines-là qui ont souvent été chercher les passerelles qu'il y avait entre le cinéma, le football, oui. machin. Et donc, ça a bougé un peu. Mais pendant un temps, c'était. Voilà. Mais à l'époque, donc, c'était. Ça comptait toujours beaucoup pour moi, évidemment, le sport en général, autant le tennis, la clé. Et en même temps, moi, j'étais quand même. Mon truc, c'était de me dire, je vais apprendre le piano. J'ai appris le piano tard, tu vois, quand j'avais 16 ans, pour jouer des chansons, parce que ça me fascinait beaucoup, beaucoup. Et voilà.
Donc, à ce moment-là, quand tu as 14 ans et tu regardes Marseille éliminer le grand Milan en Coupe d'Europe, tu sais ce que tu veux faire plus tard ou comme la plupart des
gamins de 14 ans j'avais vraiment un truc assez tôt, c'est que j'aimais bien l'idée d'organiser du spectacle. C'était un truc, mes parents m'ont beaucoup traîné à des spectacles quand j'étais petit. Ouais. Les cirques, ça me faisait un effet. Ma mère, des fois, elle se fout encore de moi. Elle me dit, non, mais on a des photos de toi avant le cirque. T'as les oreilles toutes rouges de l'excitation en dehors du chapiteau, tu vois, mais juste l'idée d'y aller, quoi. Et ça, le fait d'être assis dans une salle, de voir un rideau qui s'ouvre et qu'il se passe un truc, ça m'a toujours fait beaucoup d'effet. Et je savais que d'une manière ou d'une autre, j'essaierai de faire des trucs dans ce goût-là, mais sinon, non, je ne savais pas plus que ça.
Ok. Tu vas aller faire tes études à Rouen et ta vie va changer dans ces années-là et peut-être on va revenir là-dessus après ton troisième match, parce que pour match numéro 3, on est le 27 juin 2006. On est à Hanovre, en Allemagne, pour un 8e de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Espagne, rencontre mémorable en effet, mais pourquoi tu choisis ce match-là, toi ?
Alors là, c'est vraiment, tu vois bien, d'ailleurs, quand on te demande de choisir des matchs, tu te souviens souvent de, t'as des actions qui ont beaucoup compté pour toi et tout, mais c'est rarement finalement le match dans son intégralité, tu vois, je reprends un truc qui compte beaucoup pour moi, c'est la fois où Thierry Henry fait une pige à Arsenal, enfin, vient juste se réentraîner un peu, où Wenger accepte qu'il aille dans le groupe pour s'entraîner un peu alors qu'il joue plus à Arsenal, qu'il a déjà sa statue juste à l'extérieur du stade, et puis il le fait quand même rentrer parce qu'il trouve qu'il a fait des bons entraînements. Juste pour l'idée, puis Thierry Henry marque avec sa spéciale de le pied ouvert et tout. Et ça, c'est un truc énorme. Mais après, je pourrais pas dire que c'est un match qui a compté, mais ce truc-là, c'est dans mon panthéon. Ouais. C'est tellement comme dans les rêves, quoi, tu vois.
Oui, non, mais une osmose avec le public et avec Wenger après ce but-là, qu'on n'avait même pas vu après, pendant toutes ces années de
la suite avec Gagan. Ah oui, c'est ça, t'as raison.
Très touchant.
Mais ça ressemble vraiment, oui, au truc de rêve. Tu vois, un de mes gars, il dit ce qui serait bien, c'est que Paris joue la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Mbappé marque à la dernière minute de la prolongation le but de la victoire, il soulève son maillot et il y a marqué 2029. Tu vois, c'est des plans comme ça, quoi. Là, je trouve que le truc de Thierry Henry, c'est un peu ça. Après, là, c'était donc, je te disais, oui, c'est des fois, on choisit des matchs aussi à cause, évidemment, du contexte. Et là, c'est très spécial parce que j'étais en train d'enregistrer mon troisième disque avec un chanteur qui s'appelle Peter Van Paul, dont j'avais adoré l'album. Et il m'avait dit, si tu veux qu'on fasse un disque ensemble et avoir ce son que tu aimais bien sur mon disque, il faut qu'on aille dans la campagne près de Malmö parce que c'est là que j'ai enregistré, qu'il y a ce son très très mat, le batteur que t'aimes bien, il sera là et tout ça.
D'accord.
Et donc on y va. Et,
c'est pour les piqûres d'araignées.
Ouais, c'est mon troisième disque, les piqûres d'araignées. Ce qui était un peu particulier parce que les deux premiers, c'est des disques que j'avais fait en préparant beaucoup les arrangements à l'avance. On savait vraiment où on allait. Et là, c'est un peu plus un disque qu'on fait à l'instinct en réunissant 3-4 musiciens que honnêtement personne connaissait en France, qui sont pas du tout identifiés d'ailleurs dans l'absolu. Et donc j'étais même pas sûr complètement que ça prendrait. En fait, j'ai adoré cet enregistrement, et on logeait dans une petite maison qui était genre à peut-être 2-3 km du studio. Il fallait traverser une forêt et il arrive ce quart de finale et je dis au gars ça va ce soir, parce que vous avez du boulot, vous pouvez faire un peu de boulot sans moi, de mix et tout, parce que j'aimerais bien regarder le match. Oui, pas de souci. Donc eux, ils vont au studio et moi, je reste dans la location à regarder le match, donc en suédois, commenter en suédois, tout seul, à un truc très fort. Et en plus, la baraque, elle est vraiment isolée dans la campagne, il n'y a personne autour, donc la situation est assez dingue. Et en même temps, le contexte, c'était beaucoup la presse espagnole qui avait parlé du fait que ça allait sans doute être le dernier match de Zidane. Et c'est une Coupe du Monde qui, d'une façon générale, moi, m'a beaucoup touché. Presque plus que celle de 98, parce que j'étais passé un peu à travers sur la fin. J'ai pas vu la finale. C'est le seul match de foot un peu important que j'ai pas vu de ma vie. La France-Brésil, je l'ai pas vu. Parce que j'étais un peu omnubilé par le fait que j'avais l'impression que c'était un peu truqué, que Guy Varche recevait beaucoup trop de ballons faciles, qu'on aurait dû mener 6-0 à la mi-temps. Et j'avais dit à mon grand-père, mais c'est pas possible, quoi. Là, ils sont achetés, les Brésiliens. C'est quoi cette histoire de Ronaldo qui devait pas jouer? Toutes ces balles qui arrivent, on devrait mener. Et mon grand-père m'avait dit, moi, si je pensais que le match est truqué, je resterais pas une seconde de plus à regarder ce match. Et par fierté, j'étais parti. Et donc, j'étais dans ma chambre à l'étage et j'ai pas vu cette finale.
Wow.
Donc, 2006, c'était un peu la. Et puis, il y avait un truc aussi. Entre temps, ils étaient quand même passés par une sacrée désillusion de 2002. Et là, il y avait un truc très fort avec aussi ce truc du nouveau joueur qu'il y a souvent sur une Coupe du Monde. Il y a un petit nouveau, là, c'était Ribéry, qui s'était pas trop tant illustré que ça depuis le début de la Coupe du Monde et qui marque ce but. Et surtout, en plus, c'est typiquement une gamme de matchs que j'imagine qu'il y a ça pour tous les pays, mais j'ai l'impression qu'en France, on en a eu souvent les matchs où normalement, on devrait les perdre. Quoi. C'est dans l'air, on sent que. Ah, y a un truc, on n'a pas, tu vois, même quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, le France-Croatie, on menait à la mi-temps, mais c'était comme si on avait l'impression de perdre. Enfin, y a des fois, c'est assez curieux. Et là, c'était typiquement un match comme ça où je voyais pas bien comment on allait pouvoir revenir après le premier but espagnol.
David Villa.
Et ouais, et il y a ce but de Ribéry qui change tout, et cette course de Ribéry, donc il court le long de la touche, très 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 loin, jusqu'à rejoindre les remplaçants, je crois, ou l'entraîneur, mais plutôt les remplaçants. Et voilà. Et bon. Et au final, on gagne ce match.
Patrick Vieira
qui se matche une tête dans les pieds du gardien. Et puis Zidane, magnifique.
The cherry on the cake.
Ah, ça, c'était foufou.
Incroyable.
Et donc je me dis c'est tellement génial. Je vais pas appeler les mecs pour rejoindre le studio. Je vais y aller en courant dans la forêt. Je vais traverser. Je suis tellement content et tout. Et donc je suis parti en courant. Puis là, j'ai commencé à flipper un peu à un moment donné. Tu sais, il y avait le bruit de rien, juste des animaux. Et je me dis putain, mais là, s'il y a un mec qui sort du fourré avec un couteau, il y aura plus jamais de nouvelles. Et donc je suis arrivé au studio complètement. Hyper heureux d'avoir rejoint le studio, qu'on ait gagné. Et j'ai dit, c'est possible de faire la voix sur une chanson qui s'appelle Déjà Toi, qui est une chanson un peu d'élan amoureux, comme ça, qui parlait de mon amoureuse. Et il m'a dit, ouais, pas de souci et tout. Et donc j'ai chanté la prise de voix sur cette chanson. Je sais qu'elle est faite le soir
de France-Espagne.
Exactement.
Ah, formidable.
Limite avec l'essoufflement.
Excellent. Zinedine Zidane, effectivement, c'était. Un masterclass de Zidane.
2006 en général, et le France-Brésil, évidemment, incroyable.
Comment tu as vécu la finale alors ce coup de tête.
Ouais, c'était pas génial ça quand même, parce que, après, oui, d'ailleurs, lui-même, il en parle bien maintenant, il dit c'était mon défaut. Après, c'était quand même spécial, je me souviens même, après, il était venu quelques jours après sur un plateau pour donner des explications, mais c'était excusé sans s'excuser complètement. Enfin, c'était un peu moisi cette finale. Ouais. Et nous, on avait beaucoup de monde là pour le coup, beaucoup de potes qui étaient venus à la maison. J'ai un souvenir de tout le monde. C'était c'est pas une défaite très très sexy.
Ouais, des tirs au but.
Ouais, c'était un peu tristoun, ouais.
Carrément, parce que en plus la dramaturgie de tout cela, parce qu'avoir dit avant la Coupe du Monde, allez, c'est mes derniers, ça, ouais. ça sera mon dernier match. Donc, tu sais très bien, comme pour ton choix, la France-Espagne, tu sais qu'effectivement, comme la presse espagnole a dit,
ouais,
ce soir, c'est la fin de sa carrière. Ouais, et chaque match, c'était peut-être le dernier. Et finalement, aller jusqu'au bout, jouer la finale, marquer en finale, tu dis, OK, c'est hollywoodien, mais ça va finir avec Zidane.
Ouais, mais il le dit un peu d'ailleurs, hein, qu'il a voulu faire un peu trop, il s'est mis une pression, même la Panenka, il est à deux doigts de la louper quand même. Et c'est sûr qu'il est, oui, il a un petit peu surjoué, peut-être, dans ce machin. Et en même temps, c'est vraiment des joueurs à qui tu peux jamais en vouloir de rien, parce qu'ils sont tellement apportés, il y a tellement de matchs qu'on a gagnés que grâce à eux. C'est comme Platini, Mbappé, évidemment, que de temps en temps, ils ont fait un truc moins bien, mais bon, pour toutes les fois où ils nous ont sauvé le coup.
Ouais, voilà. ça en dit quelque chose aussi par rapport à le rapport des Français à Zidane, parce que je pense n'importe quel autre joueur se fait exclure dans une finale de Coupe du Monde, il est pourri pour le restant de ses jours. Regarde, oui. Il y a eu cet incident avec les Brésiliens en 50, le gardien de but, qui n'a jamais été pardonné. L'Angleterre, ce n'est pas une finale, mais Beckham, quand il prend son carton rouge contre Simeone en 98,
saison d'enfer, huée partout. Ouais, c'est vrai.
Zidane, c'est quand même une finale de Coupe du Monde, mais il y a tellement d'amour pour lui.
C'est vrai.
Il est pardonné presque dans la seconde qui suit.
Il y a peut-être pas dans la seconde, mais il y a eu un petit flottement, mais parce que quand même c'était assez. Je me souviens que l'idée aussi c'était beaucoup, mais quand même pour les enfants qui voient ça, ça donne un exemple. Il y avait tout cet aspect-là qui posait souci, qui était presque plus ça quoi. C'était plus lui, on sait, il est impulsif et tout, mais là quand même, il aurait pu faire un peu gaffe. Enfin,
tu parlais des commentateurs.
Oui, Gilardi, là, Gilardi, pas toi. Après, il a tellement joué incroyablement dans cette Coupe du Monde que. C'est son chef-d'œuvre un peu en termes de jeu en équipe de France, cette Coupe du Monde-là. Donc, c'est comme s'il y avait une surchauffe, quoi. C'est-à-dire que l'appareil marche tellement bien et tout que tu as envie de monter le son, de monter le son, de monter le son. Et puis, on a pété les enceintes.
Oui, tu avais 29 ans au moment de ce match. Effectivement, ton troisième album, tu bossais dessus. 4 ans après le succès du premier, 2 ans après à Kensington Square.
Ouais.
Très anglais.
Absolument. C'était parce que j'adorais tous les trucs de Divine Comedy qui est irlandais, mais qui était toute cette folklore là un peu entre guillemets. J'étais vraiment très très fan. Déjà, quand t'es à Rouen, c'est une ville qui a un côté très très anglais, beaucoup de briques. Il fait assez gris, mais il y a un vrai charme comme ça. Moi, j'étais très très fan de Madness quand j'étais jeune, et avec ce côté un peu raide, un peu j'aime bien ces musiques là un peu presque un peu maladroite, mais qui ont un petit charme malgré elle. Enfin, tu vois, ça paraît une sorte de groove un peu raide, même la danse des mecs de Madness et tout. J'adore. C'est ou le truc, ou des trucs comme un Eileen. Enfin, tout ce genre de musique, il y a quelque chose qui me touche toujours. Ouais.
Formidable. Vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie, le podcast de Bein Sports. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Vincent Delaine, notre ami auteur, compositeur, chanteur, musicien. Et je vois, Vincent, que tu as signé la musique pour le film Hors Saison de Stéphane Brisé, actuellement dans les salles, comme on dit. Un exercice très différent par rapport à la composition d'un album. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu as fait la musique d'un film. Ça avait commencé avec... La vie très privée de Monsieur Sims, si
absolument, de Michel Leclerc.
Un film que j'ai bien aimé.
Ah oui, ouais, c'est un chouette rôle de Jean-Pierre Bacri. Et là, je refais une musique pour Michel aussi. Après, alors là, pour le coup, je crois pas que ce soit des mecs très foot. Stéphane Brisé, Michel Leclerc. Je pense à ça parce que des fois, ça, c'est un truc qui arrive dans nos métiers. Tu peux avoir un concert à faire un soir de match ou alors tu es en train de présenter un film. Le film de Stéphane, je sais pas, à Strasbourg, puis il y a un gros match, puis tu sondes un peu, tu vois, ah bon, mais il y a un match ce soir, toi, t'es pas très foot, toi, ah non, pas du tout, ah bon, bah ok, ok. Et donc, tu sais que c'est foutu, mais c'est assez marrant parce que oui, ça, c'est un truc qui est assez déterminant aussi. Il faut toujours avoir un petit allié ou deux pour arriver à avoir une petite pièce à côté où il y a le. Et j'y pense aussi parce que dans le film de Michel Leclerc sur lequel j'ai fait la BO, il m'a demandé de jouer la BO un peu de temps en temps, et il y avait un match de Ligue des Champions de Paris, et j'ai réussi à faire ma prise où je joue dans un appartement, mais c'est très long, tu sais, le cinéma, il y a beaucoup de... Et c'était une maison qui appartenait à des gens qui l'avaient prêté, qui l'avaient loué, quoi, pour le tournage. Et j'ai réussi à choper le propriétaire pour qu'il m'allume la box. Et tu vois, il m'a dit, d'accord, le propriétaire s'est mis un petit coin avec moi de la pièce pendant qu'on jouait. Et écoute, après, j'ai perdu ta question.
Oui, la question, c'est par rapport à ce travail-là, la musique d'un film par rapport à un album. Très différent ou
c'est quand même
une approche très différente intellectuellement ?
C'est quand même moins, tu te colles moins de pression. En fait, quand tu fais un album, tu as quand même un truc de dire, il faut quand même que j'arrive à faire le truc qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, qui a évolué par rapport à ce que je faisais avant, mais en même temps que ce soit cohérent aussi. Enfin, bon, tu te poses quand même pas mal de questions, alors que là, c'est plus spontané. Tu t'imprègnes un peu de l'énergie de la personne que tu as en face de toi, plus que du film, je trouve, d'ailleurs. Souvent, à chaque fois, quand j'ai bossé aussi avec Suzanne Lindon, j'ai pris un café avec elle m'a raconté un peu ce dont elle avait envie, et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à travailler, et ça m'allait très bien de me brancher sur son énergie à elle. J'avais l'impression de voir un peu comment il fallait faire pour que ça lui plaise. Et puis après, la chance que j'ai aussi, c'est que les gens qui viennent me chercher, ils savent que je suis pas un musicien professionnel qui peut faire tout et son contraire, donc c'est d'ailleurs un risque qu'ils prennent, parce qu'en me demandant de faire des trucs, ils savent qu'ils vont pas pouvoir me dire trois fois de suite « Ah non, mais là, ça va pas du tout, tu y es pas, c'est pas du tout ça que je voulais. » Donc, tu vois, ils ont pas cette cartouche-là, et c'est assez courageux de leur part, parce qu'effectivement, moi, je peux très bien reproposer quelque chose un peu, changer un peu, mais je peux pas réinventer, je peux pas d'un seul coup faire un type de musique que je sais pas faire. Donc y a cette dimension qui est un peu un truc de confiance, et il faut être un peu à la hauteur de ça, pas du tout là en termes de talent, mais en termes d'y mettre une bonne énergie et de prendre ça au sérieux. En fait,
c'est un exercice qui te plaît alors.
Ah ouais. j'adore.
Ouais. Ouais. Ça doit être...
Oui, et puis j'étais, tu sais, moi, c'était vraiment un truc qui comptait beaucoup pour moi, les gens qui ont fait des musiques de films, notamment la génération un peu mythique française des années 60-70, Georges Delerue, François de Roubaix, tous ces gens, Sardes, parce que c'est souvent des gens aussi que dans la musique comptent énormément dans l'image qu'on se fait des films qu'ils ont pu accompagner, et en même temps, eux-mêmes, ils étaient très discrets, souvent physiquement, on ne connaît même pas leur tête, et je trouve ça fort, quoi, la musique du mépris de Delerue, ça compte incroyablement. Quand tu regardes des films comme Dernier domicile connu ou Le Samouraï de Melville, la musique de Roubaix, c'est vraiment, elle est partie prenante d'une époque où en fait, en gros, dans les années 70, il y a un charme qui est qu'on croit beaucoup à que l'an 2000 va être un truc incroyable. Et donc, à la fois l'architecture... Finalement, le moment qui était le plus l'an 2000, c'est les années 70, parce que l'architecture, les nouveaux immeubles, les synthétiseurs, tout ça, c'était vraiment... Et c'est assez fort, parce qu'on sent qu'il y a cet élan-là, et que c'est des gens qui se grisent, enfin, qui sont hyper excités de tout ce moment-là.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour revenir sur le carré vert... quatrième match.
Le rectangle.
Rectangle plutôt. Oui, carré magique, rectangle.
C'est ça.
Le quatrième match, c'est encore un match de l'équipe de France.
Ah oui, j'en ai mis beaucoup en fait, je me rends compte.
Non, mais c'est très bien. Là, on va revenir sur une rencontre inoubliable du mondial de 2018, le quart de finale contre l'Argentine.
Ouais, c'est un match qui appartient un peu à la catégorie aussi de ceux à un moment donné où tu penses que t'es quand même bien parti pour pas réussir à la gagner. Au moment où on est mené 2-1, on voit pas trop bien, il y a un truc dans l'air, c'est mal embarqué quoi. Et il se trouve que au moment où on faisait, peu avant la Coupe du Monde, je travaillais sur un film et j'avais demandé à Vincent Duluc, qui est journaliste à l'équipe et qui couvre les matchs de l'équipe de France, si je pouvais venir un jour filmer un truc à Clairefontaine, s'il y avait une conférence de presse ou un truc. Il m'a dit, là, il n'en reste plus qu'une avant le départ en Russie, mais tous les joueurs sont partis, il ne reste plus qu'il y avait encore Areola et il y avait Benjamin Pavard à la conférence de presse, qui était vraiment là à ce moment-là, qui n'était pas censé être titulaire, hein, qui ça devait être Sidibé qui jouait à ce poste-là. Et donc, on y va avec un pote, on filme Vincent aussi. Et j'ai fait une séquence dans le film. Après, en filmant aussi, je m'étais dit, je filmerais plus tard un truc, un soir de match, pour montrer un peu un écho entre le truc très solitaire de la conférence de presse à Clairefontaine et machin, et puis un truc un peu plus collectif. Mais donc, j'avais ces images de Pavard qui étaient un peu... quand même un peu une déception, quoi. Tu vois une conférence de presse à Clairefontaine, tu as tous les joueurs stars et tout, et ils sont tous déjà partis. Et donc là, que Pavard soit titulaire, qu'il mette ce but, on sait très bien qu'il l'entende souvent et qu'il en met quand même régulièrement, mais qu'il le dit lui-même, il en met très souvent aussi très au-dessus. il est miraculeux un peu ce but, quoi. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ce but-là, je suis pas sûr qu'on puisse renverser le match quand même. Il fallait un truc un peu de cette nature-là. Et puis après, évidemment, comme c'est une Coupe du Monde qu'on finit par gagner, ça a quand même une importance. Mais il y a un truc, ouais, ça c'est fort. Quand on n'y croit plus trop et qu'on y recroît, malheureusement, on a à nouveau eu ça contre l'Argentine avec une fin moins heureuse la dernière fois. Mais ça, ça fait un effet très, très fort, en fait.
Ouais, roller coaster.
Ouais.
Les montagnes russes. Et Pavard, imagine, pour un mec comme ça, j'adore Benjamin Pavard, personne, mais tu marques un but comme ça. Effectivement, les gens, tu peux essayer des frappes comme ça dans ta vie, mais peut-être que tu le fais au parc avec tes amis, tu le fais à l'entraînement.
Ouais.
Le faire dans un quart de finale de Coupe du Monde, réussir ce geste, ce but-là, ce jour-là, ce moment-là, c'est quand même extraordinaire. Et puis effectivement, peut-être que ça change tout dans les têtes de ses coéquipiers. Mbappé marque un doublé en 4 minutes, quelques minutes plus tard, et le match est plus ou moins plié.
Ouais. C'est sûr. Je vois bien, moi, mes gars, quand on va au terrain, qui font des frappes de loin, ils mettent des mines qui sont tout le temps cadrées, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'insiste énormément sur le fait de cadrer. Et après, en match, souvent, régulièrement, ils cadrent, mais régulièrement, ils cadrent pas non plus, quoi. Et c'est fou, quoi. Alors qu'ils sont dans la même position. C'est vraiment un truc psychologique et pas du tout la même chose. Après, sur ce match-là aussi, c'est sûr que l'image du match, évidemment, il y a ce but de Pavard, mais c'est quand même l'image de la chevauchée de Mbappé. D'ailleurs, c'est marrant, t'as vu, d'un coup, maintenant tout le monde dit Mbappé.
Oui.
Plus Mbappé. Il y a eu un.
Ils tous Mbappé.
C'est lui qui a fait une mise au.
Je suppose que ça vient de lui, sa famille, son entourage, parce que on peut pas directement dire que ça vient de lui parce qu'il nous parle pas.
Ah oui, oui,
malheureusement.
Ah oui. Mais des fois, il peut faire parler. Mais là, c'est assez beau. Évidemment, cette course, elle est tellement symbolique de lui à ce moment-là, avec sa jeunesse aussi, et aussi avec ce qu'il a pu dire depuis, c'est-à-dire qu'il n'avait pas complètement réalisé. En fait, à l'époque, il était presque trop jeune pour se rendre compte qu'il avait gagné une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on ne sait plus. C'est la dernière fois qu'il a repris l'entraînement très vite, mais là aussi, très vite, il est passé à autre chose. Et ça, c'est vrai que ce truc, cet élan-là, c'est quand même aussi la découverte d'un talent et qui est... Ça, c'est magnifique, quoi. Cette course, elle est incroyable.
Ouais, elle est extraordinaire.
Le petit contre-appel au départ de l'action et puis après de traverser le terrain comme ça. On a quand même, quand on aime le foot, on se nourrit de moments comme ça. C'est ça qu'on espère voir. Évidemment que c'est fou parce que quand on se dit... dis-moi 5 matchs qu'on comptait, évidemment qu'il y en avait peut-être une dizaine qu'on aurait pu mettre de plus, mais peut-être pas tant que ça de plus, en fait. Et quand on voit la quantité qu'on en avale, ça veut dire qu'à chaque fois, on espère qu'il va y avoir le Waddle qui traverse le terrain ou le but de Maradona contre l'Angleterre. Enfin, pas toi, sans doute pas, mais...
Voilà. Mais effectivement, ce match-là, c'est la confirmation de l'émergence de ce talent qu'est Kylian Mbappé avec son doublé et cette course pour la penalty de Griezmann, effectivement. Donc, formidable souvenir. Mais tu étais où, avec qui?
Là, j'étais au-dessus du canal Saint-Martin, chez des amis. Et c'est marrant parce que le soir de la finale, justement, je me suis dit, aujourd'hui, enfin le jour de la finale plutôt, c'était l'après-midi, aujourd'hui là je prends ma caméra pour faire la séquence qui va conclure le moment de Clairefontaine, et donc soit je vais filmer des larmes, j'étais plutôt dans l'idée de filmer, je m'attendais plutôt à filmer des larmes sur du maquillage qui coule, et je me disais ça va être beau et tout, ça compensera le fait d'avoir perdu, tu vois, faut toujours, je crois qu'il y a quelqu'un comme ça qui parie toujours une grosse somme sur l'adversaire pour avoir au moins la satisfaction de gagner un truc quand son équipe perd. Et ça, c'était un peu ça. Et là, du coup, on a gagné. Et après, il se trouve que sur le canal Saint-Martin, les gens plongeaient des ponts, tu vois. Et c'est des images qu'il n'y a pas eu. Les équipes de télé, elles sont souvent aux Champs-Élysées. Enfin, elles ont quelques points névralgiques comme ça, ou à la fontaine de je ne sais pas quoi. Mais il n'y avait personne sur le canal. Et c'était génial parce que les gens, ils plongeaient.
Wow.
Et moi, je filmais. J'avais un appareil assez simple. Mais j'étais quand même, on avait picolé du rosé et tout. Le point était pas très bon, la netteté, et les gens ils plongeaient, ils me filaient tous leur téléphone, leur montre, parce qu'ils allaient dans l'eau, et ils voyaient que moi j'étais le mec qui restait habillé, qui filmait, et puis le soir je suis rentré chez moi, je me suis dit bon, les images ça doit être n'importe quoi, et j'ai commencé à les regarder, et en fait elles avaient vraiment un truc, tu sais c'est un peu du pot aussi, ça c'est comme les joueurs, et des fois ils ont... leur match c'est des fois pas, et des fois quand tu fais de la photo ou tu filmes, des fois t'as de la chance... ça fond. Des fois, c'est tout pourri, très souvent. Ouais. Et puis, des fois, il y a un truc. tu ne sauras pas dire pourquoi ce jour-là, la lumière était super et tout. Et je me dis, mais merde, en fait, tous ces gens, ça va être super, mais j'ai pas du tout leur contact pour les mettre dans le film. Ils étaient tous à moitié à poil. Et donc, j'ai posté sur Instagram, j'ai fait des captures d'écran, j'ai posté tous les visages, tous les corps des gens en disant, bon, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez des amis. Et on a retrouvé tout le monde.
Génial.
Ouais, tout le monde a signé. Et du coup, formidable. Tout le monde est dans le film.
Ah, belle histoire pour conclure sur cette victoire pour les Bleus en 2018. Et on va finir avec un match, Vincent, qu'on ne risque pas de retrouver sur Internet.
Je ne sais pas. Il doit y avoir une vidéo, mais je pense que là, c'est sans doute soit mon amoureuse qui l'a faite, soit... c'est un match qui a lieu à Porquerolles, un endroit où... j'ai souvent été à Porquerolles et il y a un terrain de foot à Porquerolles qui est magnifique, qui ressemble un peu, tu sais, il y a tout un... Maintenant, il y a des mecs qui photographient les terrains partout dans le monde, des terrains un peu désertés où il n'y a jamais personne dessus, ou alors avec les buts qui touchent une maison, ou au contraire un truc dans un no man's land. Et là, c'est un peu ça, c'est au milieu d'un champ, je pense que c'est un champ de maïs. C'est magnifique. J'ai très souvent photographié ce terrain avec personne. Il est immense. Enfin, il est beaucoup trop grand pour y jouer à trois quand je suis tout seul avec les enfants. Ouais. Et donc, à chaque fois, on s'est dit, bon, un jour, si on a des potes qui viennent à Porquerolles, on organisera un match sur ce terrain. Et il se trouve que je me suis marié l'année dernière et que on a fait le, je te remercie beaucoup, et qu'on a fait une sorte de petit voyage de noces avec des potes et on est parti en bande là-bas et donc on a pu faire ce match. Et pour moi, je t'en ai parlé parce que bon, c'est techniquement, il y aurait à redire sur ce match, mais c'est aussi le symbole de la relation foot avec mes enfants, parce que ça, c'est quelque chose qui a énormément compté et qui compte beaucoup pour moi. C'est un coup de chance, j'ai deux garçons. S'il y en avait un des deux qui avait aimé, pas l'autre, à la limite, aucun des deux aurait aimé, ça m'aurait pas trop gêné, mais un seul sur deux, ça aurait été plus compliqué. Il se trouve qu'ils sont vraiment très très foot, mais vraiment très foot, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse culture là-dessus. Ils sont pas choqués de voir des images noires et blancs. Si tu leur dis, tiens, va regarder un documentaire sur le meilleur ami de Pelé, ouais, ok, super. Enfin, tu vois, ils ont pas ce truc de dire, ouais, mais j'étais pas né, ça m'intéresse pas. Ouais, donc ça c'est cool. Ouais. Et après, c'est aussi l'importance de des gens qui font le football, c'est-à-dire les éducateurs. Tu vois, ils ont eu un premier gars, il jouait sur les Hauts de Belleville, au bout de la rue des Envierges, au-dessus du parc de Belleville, avec un mec qui s'appelait Slim, qui était un gars de quartier, mais qui était très, qui organisait les matchs le samedi matin. Les gens qui peuvent filer un billet, la plupart payent pas, enfin, tu vois, c'est, et lui, il était très, aller reprendre dès qu'il y avait un mec qui était par terre, à dire à qui il avait fait aller le voir pour voir s'il s'était pas fait trop mal, ou alors s'il y avait un enfant qui pleurait, mais pourquoi tu pleures, t'as aucune raison de pleurer, si tu commences à pleurer pour du foot, après dès qu'ils font pas de passe, va faire du tennis si tu veux jouer tout seul et tout, et football faut faire des passes, enfin tu vois, tout un truc. Et ça, c'est génial. Je sais que monsieur Hamel, monsieur Soumaré, tous les profs qu'ils ont eu, tu vois, qui sont ils les adorent, parce que c'est des gens aussi qui sont, c'est des éducateurs, et ça compte beaucoup, beaucoup, hein. Ça te fabrique quand même.
Bien sûr.
Donc, ouais.
Et donc, eux, ils jouent dans ce match-là.
Ah ouais, ils jouent dans ce match. C'est deux très, ils sont très bons footballeurs. Même à un moment, tu vois, pour les nés, on se disait, qu'est-ce que ça donnerait si. Mais c'est tellement dur de partir à 12, 13, 14 ans de chez toi, de faire ça. Et à un moment donné, c'était marrant parce que mon fils aîné, il avait eu un truc, c'était qu'ils adorent Friends. La série. Et en fait, une fois, il m'a dit, mais si je suis footballeur, je connaîtrai jamais les années Friends de fête, de ces années-là, de vivre en coloc. Pense que non, oui, ce sera un peu différent. Et bon, voilà, je sais pas s'il aurait été footballeur sans Friends, mais en tout cas.
Il a été freiné par Friends.
Freiné par
incroyable,
Friends.
Incroyable, quelle histoire. Et donc, le match en lui-même?
Non, pardon, Darren, je t'avoue que c'est très disparate. Et après, c'est aussi que ça.
De tous les niveaux?
Ouais, de tous les niveaux. Bon, quand même. C'est quand même un truc aussi que je trouve, c'est prétexte à te parler de ça, c'est que je trouve ça dingue, le foot, justement, qu'il n'y a rien d'autre qu'une balle, quoi. Donc, en fait, tout le monde peut y jouer à l'infini, puis à un moment donné, tu ne sais pas trop. C'est toujours mystérieux. J'entendais dans ton podcast Dorasso qui disait qu'il était arrivé un peu jeune en équipe de France, qu'il avait l'impression de ne pas être tout à fait au niveau. Parce que de loin, comme ça, tu peux te dire des fois que c'est presque un peu une chance. Enfin, pourquoi tel mec s'impose? Quand tu les vois jouer de loin, il y en a certains qui ont un style pas forcément très flamboyant. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur qui est très bon ou très très bon ou très 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 bon. Pour le coup, Wenger, il parle souvent très bien de ça quand il dit, parce que lui, il était omnubilé par le fait d'analyser ça, qu'il recevait des vidéos où ils avaient compris que le joueur excellentissime, il faisait 6 regards pour voir l'action, alors qu'un joueur très bon, il n'en faisait que 4. Tu vois, enfin, il y a ces trucs-là aussi qui entrent en ligne de compte. Et puis aussi un truc de tempérament, parce qu'il fait... Mais donc voilà, non, en fait, c'est ça qui me touche aussi quand on fait un match comme celui de Porquerolles, mm-hmm. où tout le monde joue avec des niveaux plutôt minables en général. C'est le plaisir de jouer, le plaisir de... Et le fait que, ouais, que rien ne différencie, ne nous différencie d'un super joueur, si ce n'est qu'on n'est pas bon, quoi. On a le même matériel, enfin, tu vois, c'est étonnant. Et puis ce truc aussi qui est dingue dans le foot, c'est que... Que ce soit le sport qui polarise autant d'attention, et même c'est devenu un problème, tu vois. Un journal comme L'Équipe, ils te disent, nous, si on faisait que répondre à la demande, il y aurait déjà que ça prend presque toute la place, mais il y aurait encore moins de place pour le reste que le foot. Mmh. Et c'est quand même dingue de voir qu'on peut se réunir à 80 000 personnes dans un stade, des fois, pour voir un match à 0-0, quoi. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est d'envoyer le ballon dans une cage, et ça va arriver. Bon, des fois, ça arrive 6-7 fois quand c'est la folie, mais sinon, ça arrive plutôt 2 fois, 1 fois, en 1h30. Tu vois, c'est dingue. D'où ça vient que ça nous fasse cet effet, quoi.
Il y a eu des buts quand même dans ton match à Porquerolles.
Énormément. Et ça, je peux te dire, puis que des très beaux. Et puis, quand je crachais trop mes poumons, je me suis mis dans les buts pour finir.
Ben, c'est une belle histoire pour finir sur tes 5 matchs, Vincent. Merci beaucoup.
Merci Darren.
De nous avoir reçu.
C'était trop sympa de faire
ici,
ça.
Ici, dans ton label.
Et oui.
Et on te souhaite beaucoup de...
C'est que dans,
de...
cette, dans ce label, on a vu souvent des matchs de foot. Ils organisent des matchs et tout. Il y a des projections.
Ah
ouais. Bah ouais, ouais.
Okay.
Ah ouais, après, il faut faire gaffe dans les labels parce qu'il y en a toujours un qui vient de telle ville, qui est susceptible. Faut pas,
d'accord. Ben, c'est un lieu de musique, mais de foot aussi alors. Merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Mmh. Et on te souhaite évidemment beaucoup... d'autres matchs mémorables à venir, Vincent. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.